C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Bonjour, salut, c'est Charles Cécile. Ce jour, nous sommes sur les traces d'Ahmed Bouzine. Au pays des conteurs et des rêves, j'ai confié mon micro pour deux émissions à Anne-Gaëlle Gauduchot, également conteuse, qui est un peu distraite quelquefois et qui, nous l'espérons, ne se perdra pas dans les rues de Paris.
Rêve que tu perds une dent de devant ou une molaire, tu risques de perdre un animal de ton troupeau ou quelqu'un de ta famille. Et si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves de vêtements noirs ou de sang, tu vas partir en Retsu et tu vas y laisser la vie. Si tu rêves, 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 si tu rêves de vêtements blancs ou de lait, tu vas devenir riche. Si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves que ta chamelle te mord, il faudra changer ta tente de place. Une crue va se produire et tu risques d'être emporté. Si tu rêves, 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 si tu rêves qu'une femme te met la bague au doigt, il y aura tout lieu de rire. Le proverbe dit, plus tu te maries tard, mieux ce sera pour toi. Si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves qu'une femme t'ôte un bracelet de ton poignet, là où tu iras, une personne te souillera. Si tu rêves, 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 que tu tombes au fond d'un puits, le mauvais œil est sur toi, tu te lèveras, tu te tairas et tu feras une aumône. Si tu rêves, 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 si tu rêves que tu meurs, tu vivras longtemps. Si tu rêves que tu pleures, alors tu riras. Si tu rêves que tu ris, tu pleureras. Si tu rêves que tu vas à une fête, tu iras à une autre. Mais le plus beau de tous les rêves, c'est celui où tu gravis une montagne sur une chamelle blanche. Tu as rêvé de voyage, le seul rêve où l'on peut passer du rêve à la réalité. Ce matin-là, tu te lèveras, tu prendras ta plus belle monture, tu prendras ton plus beau tapis de sel, tu prendras ta plus belle selle, tu prendras ton plus beau bouclier, ta plus belle lance, tu prendras ta plus belle épée, ta plus belle coupelle de cuivre, tu chausseras tes plus belles sandales, tu te vêtiras avec tes plus beaux habits, tu mettras ton voile, ton tagoulmous, tu te parfumeras à l'ambre et au musc, et dès cet instant, tu regarderas tous ceux qui sont les tiens et tu diras « Oh, hic, Djurunian !» Je vous salue. à nu. Tu prendras la première trace qui te conviendra et tu marcheras. Kalina so yeni nanjerin. Hey yo naï. Marche jusqu'au kilomètre 1001. Là-bas tu verras, il y a Dacine, la mère de toutes les histoires. Ne te moque surtout pas d'elle. Elle a la face toute ridée, le dos tout voûté, les vêtements tout troués. Et à côté d'elle, il y a un chien dont les tripes traînent à l'air. Si le chien montre les dents, passe ton chemin. Si le chien vient te lécher la main, alors assieds-toi et prononce le mot histoire. Elle te racontera l'histoire de toutes les histoires. Elle te racontera l'histoire d'Harry Goulan et de son neveu utérin Adèle Azeg.
Je suis à Paris et j'ai rendez-vous place de la Bastille avec Ahmed Bouzine. Ahmed Bouzine est musicien. Il a commencé par faire de la musique brésilienne, mais il n'est pas du tout brésilien. Il est berbère, marocain, français. Il est dans une palmeraie du désert. Et quand je lui ai demandé ce qu'il avait amené ici, il m'a répondu.
C'est la parole qui m'a amené ici. C'est la parole. Donc, c'est à Paris où j'ai découvert ma propre culture, finalement. On dit ça parce que il y a un moment, comme tout un chacun, c'est-à-dire cette altérité, dans son propre peuple, on y vit, mais on n'y pense pas sa différence.
Dans ce sens-là.
Et on n'y pense pas sa propre culture puisqu'on est dedans et on la vit aussi. Et donc Paris a été une propre découverte de cette altérité-là. Quoi.
Et c'est ça, cette découverte-là qui t'a donné envie de raconter ou bien d'où ça vient ?
Oh, ça vient de la profonde enfance, de l'histoire, de ma propre histoire et de l'histoire avec la France. L'altérité, elle commence très très jeune. Pour moi, elle a commencé à l'âge de 6 ans. Une année après la fin de la guerre d'Algérie, je suis arrivé dans le Nord-Pas-de-Calais, au pays des mines. Et là, on m'insultait comme un Algérien. Donc, et en demandant à mon père là pourquoi on le traitait de sale melon, sale raton, il me disait c'est la guerre d'Algérie, mon fils. Entre un Algérien et un Marocain, on vient tous les deux du Maghreb. Donc tu endosses déjà à la fois le manteau d'une autre nationalité, puis le manteau... donc ça commence très très tôt, cette prise de conscience de cette altérité, quoi. Après, ce qui m'a un petit peu amené à être conteur, c'est assez complexe, mais il commence aussi à cette période-là, bizarrement. Mon père était chargé de s'occuper des papiers de ces mineurs marocains, donc je l'accompagnais parce qu'on parlait la même langue, on venait de la même région. Et un jour, j'ai vu un mineur qui avait fabriqué un instrument à partir d'un bidon d'huile Shell avec un beau coquillage dessus. Donc t'es dans l'enfance émerveillé par ce... Et il en avait fait une forme de guitare banjo. Et il chantait le blues de la mine comme on chante la poésie des chants de coquelicots chez moi. C'est-à-dire, et là, j'ai pris conscience que il n'y avait pas d'artistes qui étaient venus avec eux, donc ils se fabriquaient leur propre artiste, quoi. Et que l'immigration n'est pas venue sans ces artistes, malgré que je revienne là-dessus, parce que maintenant on découvre qu'il y a eu beaucoup d'artistes de l'exil et de l'émigration dans les années 50, 60, 70, qui avaient toujours un lien aussi. Et même chez les poétesses, chez moi, les poétesses là, qui parlent de ces mineurs, quoi. Et donc...
Tu dis que c'est les femmes, tu dis les poétesses, c'est les femmes qui racontent chez toi ?
Il y a les deux, il y a les Rouaïs et les Khaïssa. Hein, les rouaïs, ce sont souvent des joueurs de ribab, qui est un violon monocorde. Ils chantent... là, chez moi, il y a une tradition de poésie populaire là, qui est connue de tous, assez fabuleux, aussi bien des chants des années 30. Et puis, il y a des raïssa. Ma mère était une poétesse. Et donc, elle chantait l'exil des mineurs, à la fois dans la tristesse, dans la douleur, mais à la fois dans la moquerie aussi, parce que c'était le matérialisme qui enlevait ces hommes-là, ces femmes, quoi.
Et puis, parce que les femmes restaient, par contre.
Les femmes restaient, oui. Et ces femmes-là, elles chantaient aussi un homme, un seul, qui est venu chercher tous ces mineurs marocains. Il s'appelait Monsieur Morat. Et elles ont fini par l'appeler Monsieur Morras. Bizarrement, cette double ambiguïté. Et Mora est venu dans les années 60 chercher 30 000 mineurs marocains. Et mon beau-frère me disait qu'il y avait des émeutes dans les villes où il passait, des choses comme celle-là, quoi.
Des émeutes, pourquoi ?
Parce que tout le monde voulait partir.
Ah, c'est ça ?
Ouais. Et... Le début de Folie Berbère parle de ça, quoi. C'est vraiment... je grandis dans le Nord-Pas-de-Calais jusqu'en 69. Et ben là, il n'y a plus de mineurs marocains qui vont venir en France. Donc le poste de mon père, c'est mon père qui décide. Hein. En plus de ça, j'étais bizarrement, tu vois, dans cette altérité, aussi... j'ai jamais grandi dans le coron du Nord, par exemple, hein, c'est-à-dire dans ou dans les cités HLM. Tu vois, il y a aussi toute cette ambiguïté. Quand j'étais petit, mon père avait une maison d'ingénieur, quoi. C'est-à-dire qu'on avait une grande maison, 12 pièces. Et puis mes potes, polonais ou italiens, ils vivaient dans les corons, quoi. Tu vois, il y avait et donc ce complexe de classe dans cette altérité, même en venant à Paris après, parce que tu vois, je suis venu en 62, reparti en 69 au Maroc. Et j'allais au lycée français d'Agadir à l'époque, et puis revenu en fin 70, parce que mon père s'était foutu dans la politique et il a dû fuir précipitamment le Maroc, et on est revenu ici. Et puis moi, je l'ai quitté parce que j'avais une belle-mère, comme dans les contes, qui était une vraie marâtre, quoi. Une vraie, vraie, vraie marâtre. Donc, je me suis retrouvé...
T'avais quoi, là? T'avais 17 ans
Non, j'avais 11 ans et demi, 13 ans. 13 ans.
Oh, d'accord.
Donc, je me suis retrouvé à l'aide sociale à l'enfance. Et puis, dans cette aide sociale à l'enfance, je me suis retrouvé chez un noble en Champagne, dans un château... Hein, tu vois le truc bizarre où on m'avait offert un pur sang. Donc j'ai grandi en Champagne, dans ce château où j'allais au lycée de la petite ville de Cézanne, jusqu'au bac, quoi. Et puis je suis revenu sur Paris après avec une drôle d'histoire. C'est en cherchant du travail en tant qu'électrotechnicien, électronicien à l'époque. Tu
avais étudié ça ?
Ouais, j'avais étudié ça. Là que j'ai vu que on ne voulait pas de moi, que l'intégration ne marchait pas, quoi. Autant j'avais investi pendant très longtemps et je m'en étais voulu de mettre avoir choisi aussi bien l'intégration dans la société française et à la rigueur avoir rejeté ma propre culture. C'est ce que j'avais.
Tu t'étais planté
Que je m'étais planté royalement, quoi, tu vois. Et donc ça a été un désespoir total. Et finalement. Ça va être à travers un récit. Dis-moi, finalement, non. Je deviens percussionniste, mais je tourne autour de ma culture. Il y a toujours cette ambiguïté où aller au cœur de sa propre culture, c'est une souffrance aussi.
Tu joues la musique brésilienne, tu joues la musique
africaine, la musique jazz. Mais ça remonte aussi à l'enfance. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je m'étais identifié aux cultures noires. Et au même combat, pour les combats civiques. C'était la même chose aussi quand j'étais enfant. Et donc, mes héros, c'était plus Angela Davis ou Malcolm X. ou Otis Redding, Wilson Pickett et les musiques noires au départ, le blues, les choses comme celles-là, parce que c'était une France raciste quand j'étais petit aussi, quoi. Tu vois, le racisme, tu le reçois en pleine gueule. Et cette altérité-là, avant de venir à ma propre culture, je savais qu'aller au cœur de ma propre culture, c'était une souffrance. Hein, parce que ça me remettait sur l'histoire de mon départ de la Palmeraie, c'est-à-dire un enlèvement.
Un enlèvement, tu dis?
Voilà, un enlèvement, oui, bien sûr, j'étais enlevé, puis voilà, quoi.
Enlevé par ton père?
Oui, par mon père, bien sûr. Et en même temps, une histoire où j'y retourne après. Hein, quand je retourne au Maroc en 69, j'ai encore mon grand-père qui vient. Et finalement, ce que je vais rejeter pendant très longtemps, du moins pas pendant si longtemps que ça, pendant 5-6 ans, c'est ce récit qui va à la fois me faire reconnaître très vite, qui est le fragment d'épopée Touareg.
Et que tu connaissais déjà, que t'avais...
À l'âge de 13 ans, je l'avais écouté durant un mois de juin, juillet, avec mon grand-père, aussi bien quand il venait nous rendre visite à Agadir que quand j'allais dans ma propre palmeraie chez lui, quoi.
Donc c'est un récit que tu connais, que tu avais entendu
d'oreille à oreille. Je l'ai entendu parce que c'était la manière de le raconter.
Même pas.
On marchait, me racontait ça. Ça me rentrait dans une oreille, ça me sortait par d'autres. Il y a des moments où j'étais vraiment attiré. Et puis voilà, quoi, ça en est resté là. Puis finalement, ça a été à la fois le récit. Un récit boué.
Un récit quoi, tu dis ?
Là, comme une bouée.
Une bouée.
Ouais, sur lequel tu t'accroches et sur celui qui te remet en relation directe avec l'autre altérité, puisque tu es fait maintenant de deux altérités différentes, c'est-à-dire que tu as intégré entièrement ta culture française, mais tu es aussi de culture berbère. Tu es un enfant des Lumières et de la laïque, mais un enfant du désert aussi, quoi, tu vois. Donc, à partir de là, ces deux positionnements et deux regards différents sur le monde.
Ça veut dire que toi, tu as attrapé cette histoire, qui est une histoire traditionnelle.
Oui, une épopée. Une épopée. Là, elle était racontée, c'est moi qui l'ai mise au champ. Bon, à partir du moment où je l'ai adapté en français, j'avais donné une forme qui était proche de mes cultures à cette époque-là, à la fois des instruments du désert, à la fois cette africanité aussi que portent les berbères, à la fois l'éloquence du récit, à la fois, c'est-à-dire toutes les contraintes liées au récit, c'est-à-dire qu'une adaptation demande la même représentation dans une autre langue, du même récit. Et donc, c'est en étant dans une forme d'altérité à peu près parfaite qu'on arrive à donner un récit fondateur dans une autre langue et toute sa dimension, à la fois de l'éloquence de la langue, de la poétique, de la musicalité.
Ça a été difficile à faire ?
Écoute, non. Je vais te dire la chose au départ, c'est quel lien tu entretiens avec ce récit, parce que au départ, le donner, c'était une souffrance. Une souffrance parce que c'était cette relation au lien de ta propre culture. En même temps, pour moi, c'était le grand-père, mais ma propre culture, c'est aussi la culture de ta mère, tu vois. C'est-à-dire que... Et puis, il y avait... cette distanciation à l'époque de l'homme du désert où tu disais ce que je raconte, est-ce que les gens sont capables de le comprendre aussi dans toute sa dimension, parce qu'il y a aussi une dimension en France qui est la dimension, un peu colonialiste, c'est-à-dire toute l'histoire que les Français entretiennent avec ces territoires, ces terres.
Les fantasmes qu'on a dessus, les images et tout ça.
Mais quelque part... ce récit était très bien aussi parce qu'il mettait une telle distance entre les gens et la perception du désert, qu'il y avait une forme d'hermétisme. Il ne se donnait pas comme ça. C'était pas du folklorisme ou des choses comme celle-là, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent ce jeu-là aussi aujourd'hui à l'intérieur des arts du récit, des arts du conte. Il y a et quelque part, il avait sa propre noblesse, ce récit. Cette dimension à la fois de sa longueur, parce que le premier volet fait entre 1h50 et 2h10, quoi, tu vois, donc c'est déjà une performance physique. Elle fait 6 heures, mais on me les a tellement peu demandé qu'on finit par les oublier, quoi.
Thank you. l'amour, la mort. Sont filles du néant. Que le vent de l'histoire balaye d'un courant d'air. Dans les couloirs de l'un. Le désert de la solitude, plus jamais nul ne revient témoigner de l'ingratitude qui l'a abandonné au seuil du tombeau. Sans une prière, pour le repos de son âme, son âme. Le repos de son âme. Le repos de son âme.
Ahmed Bouzine est un conteur comme sur un fil. C'est une sorte de funambule trouvant son équilibre entre sa culture d'homme du désert et sa culture française. D'une façon générale, l'altérité, l'autre, intéresse fortement Ahmed Bouzine.
Donc, de 1977, l'année où je commence ma vie de musicien, j'ai 20 ans. Au départ, je suis dans un squat artistique à Saint-Cloud, on est tous musiciens. Non, il y a un potier avec nous, il y a des tas de gens, mais on est tous issus de la même ville. Moi, je vis à Suresnes et on a tous fait un petit bout de chemin ensemble au lycée. Et de là va sortir des super bons musiciens, Sidney Cham qui va jouer avec Eddie Louis, avec des grands musiciens français, Marc Madoré qui a fait un tube avec Monica Passos qui était venue aussi dans ce squat artistique, qui ça d'autre encore, moi-même qui suis à l'époque musicien mais qui est devenu un musicien conteur. Et puis moi je donne des cours au centre de loisirs Léo Lagrange de Suresnes, des cours de percussion pour enfants avec Sidney Cham. Et c'est Sidney Cham qui met dans la percussion, c'est-à-dire qu'il me dit ouais, putain, t'es doué, vas-y, mets-toi là-dessus. Et c'est vrai que bien plus tard, je découvrais que ma mère c'était une poétesse, que la percussion chez moi, c'est, que ma sœur était est toujours percussionniste de mariage ou de choses comme ça. Là, tu vois, donc je deviens percussionniste avec Monica Passos. On fait un premier groupe, on est 8, c'est un grand groupe qui s'appelle Alma Novas en 9. Notre premier contrat, c'est le Carré des Halles. Du moins, les Halles à Paris viennent d'ouvrir et pendant 2 mois, on joue au Carré des Halles, tous les standards de la bossa nova. C'est comme ça qu'on rencontre Monica Passos parce qu'on n'avait pas de chanteuse, donc on les faisait musicalement. Puis un jour, une femme chante, c'est elle qui vient avec nous. Et puis en donnant ces cours dans cette MJC, à la fois je rencontre ma future douce épouse Evelyne, avec qui je suis aujourd'hui, bretonne, là qui va recevoir le 5 juillet la Légion d'honneur par le ministre de la ville, oui. Et à cette époque-là, les cultures africaines ne sont pas là, mais on rencontre une autre femme qui est au théâtre Jean Villard, Dominique Margot, qui est toujours une grande amie, et on décide de fonder une association portée sur les cultures orales de tout le continent africain. Et on rencontre un grand griot qui s'appelait Alpha Kabine Kouyaté et qui lui vient travailler aussi au centre de loisirs Léo Lagrange et à la fabrication d'instruments. Et ensemble, on fonde cette association qui s'appelle De l'autre côté. Et à nous, vient se raccrocher des ballets congolais, les ballets Lemba, 30 danseurs. Et on s'intéresse à la fois aux traditions orales. Et à partir de là, vont venir à nous Suzy Platiel, là, qui est une grande amie d'Evelyne, ma femme à l'époque. Christiane Sédoux, Calame Griol, des psychopédagogues, des artistes plasticiens, des cinéastes. Et on travaille grâce à Dominique qui s'occupe du secteur jeunesse au CAC des Gémeaux, à l'époque scène nationale. On travaille sur 4 villes, tu vois, c'est-à-dire que le conte et les arts de l'oralité en 1982 sont déjà en scène nationale. Et de 82 à 86, on est en résidence à Sceaux, quoi, tu vois. Et à partir de là, on monte un spectacle à 4, c'est-à-dire Alpha Kouyaté, moi-même, et Evelyne et Dominique. Donc, elles vont faire partie des premières conteuses aussi. Moi, je suis même pas, du moins, je suis conteur à l'époque, mais on sait même pas que cette profession existe en France, tu vois. On a commencé en 80 à travailler, puis on a fini par monter un spectacle en 82. Pour de l'enseigne nationale, ça avait demandé du travail. Et on avait le premier spectacle s'appelait Les Enfants Terribles. On avait travaillé sur cette figure de l'enfant terrible. Et ça marche bien, quoi. Il y a un début, le renouveau aussi dans les bibliothèques. Et je donne ce spectacle-là.
À ce moment-là, qui raconte ?
Alors, à ce moment-là, qui raconte ? J'ai vu Nasser qui était à Chaillot à l'époque. Il y avait Bruno de la Salle et ses élèves aussi, parce que ils étaient élèves, les Michel Hindenock, Muriel, tout ça. Bon, ils avaient fait des spectacles avec Bruno. Mais à cette époque-là, je me souviens surtout du questionnement du milieu. C'est comment faut-il raconter ? Est-ce qu'il faut apprendre par cœur ? Est-ce qu'il faut improviser ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Donc à partir de là, vont naître des écoles, les écoles de l'écriture dans le conte, et puis les écoles de ceux qui improvisent, qui sont des grands improvisateurs, des grands joueurs avec les mots, les situations, le temps. Et donc, on est 10 compteurs à cette époque-là. On a une dizaine de compteurs, oui. Et Bruno de la Salle va venir dans l'association Serchel Facouillaté, parce que c'est un grand griot à l'époque. Et moi, je suis jeune compteur. En 83, je vais raconter le fragment des Popis Touareg, mais ça va se passer comme ça. On finit par tourner beaucoup Alpha Kouyat et moi, il me demande de traduire ses mythes, ses contes, et même une partie des épopées, Sundiata Keïta, la geste de Ségou. Evelyne avait fait sa maîtrise sur l'épopée de Sundiata Keïta, donc c'est un récit qu'elle avait traduit, j'en connaissais. Et puis, en travaillant avec Alpha, il m'a dit, écoute, t'écris très bien, vraiment, latin griot comme moi. Alors vas-y, écris un spectacle pour toi-même et t'inquiète pas, je suis derrière toi, quoi. Je suis un grand griot, je te reconnais. Et donc être connu. Et c'est vrai que je suis arrivé, j'avais 24 ans, j'avais ce récit-là qui me portait. Et au départ, Bruno de la Salle qui me disait, vas-y, jeune compteur de rien du tout. C'est-à-dire, on me regardait comme un jeune. Ils avaient tous 10 ans de plus que moi, quoi, tu vois. Un jour, il m'a invité à la crier au compte à Montpellier. Et je flippais grave parce que il y avait Bruno de la Salle, il y avait Nasser Kemir, il y avait, tu vois, j'avais l'impression de passer.
Ton oral ?
Mon oral, oui. Et au sortir de cette épopée, Nasser a été très généreux avec moi. Il m'a dit, bon, je peux me retirer. Donc, c'était bon, j'étais reconnu. Très, très vite, là, tu te poses la question, quoi. C'est là, pourquoi je fais ça, finalement, et qu'est-ce que je représente ?
Ouais.
Et donc...
Par exemple, quand Bruno a monté les Mille et une Nuits, t'as pas eu envie de participer à ça ?
Il m'a pas appelé Bruno, il m'appelait sur d'autres récits plus tard.
Où... Je croyais qu'il y avait une dimension politique là-dedans.
Non, parce que je vais te dire une chose, je n'ai intégré la dimension arabe de ma culture que bien plus tard. Au départ, je suis de culture berbère saharienne, donc. Et puis les Mille et une Nuits, c'était le territoire à la fois de Nasser Kemir. Tu comprends, c'était aussi le respect de ce qu'il en avait fait. C'était d'une beauté ce qu'il avait fait à Chaillot, que si tu refais les Mille et une Nuits, c'est pour refaire quelque chose d'aussi grand que ça, quoi. C'était Yanis Kokos qui lui avait fait la scénographie et Antoine Vitesse qui l'avait invité, quoi, tu vois. Et donc c'était une immense forme de tente faite en mousseline tulle qui était une forme de spirale. Donc tu rentrais dans une forme de palais, dans une forme aussi de tente escargot immense qui faisait 10 mètres de haut sur 30 mètres de large. Et puis Nasser, avec toute cette dimension de cette maîtrise architecturale, parce que avant de maîtriser les Mille et une Nuits, c'est comme pour tout récit, je dirais. Avant de maîtriser les Mille et une Nuits, il faut en avoir la maturité. Si on veut raconter les mythes grecs, soit on est un surdoué et on fait ça à 20 ans, mais généralement c'est aux alentours de la quarantaine, cinquantaine qu'on a toute la distance existentielle pour en connaître toute la sève. Tu comprends, il faut avoir du vécu, il faut avoir eu des contraintes dans la vie, des choses comme celle-là, quoi. Et donc les Mille et une Nuits, j'y viendrai plus tard, j'appellerai ça la lumière des nuits. C'est quand je me pose la question en quoi notre culture dans cette globalité, c'est-à-dire que là j'ai intégré la culture arabe, donc puisque c'est une culture avec laquelle on vit depuis 15 siècles, et donc par conséquent, où sont les lumières de cette culture arabe ? Alors à la fois elles sont très reliées à moi par l'Andalousie, parce que de chez moi, de ce désert, est partie deux dynasties berbères qui ont conquis l'Andalousie, les Almohades et les Almoravides. Et de l'autre côté, par l'Andalousie arabe aussi. Et de l'autre côté, par les Mille et une Nuits, où c'est le summum de la pensée arabe dans tout ce qu'elle a d'excellence. Dans l'art de la poétique, dans l'art de l'architecture, dans l'art du... du raffinement, c'est-à-dire, et de la philosophie aussi, c'est-à-dire que à cette époque-là, on est à la limite de basculer dans une société laïque grâce à des grands penseurs comme Mutanabbi, Al-Mutanabbi ou des gens comme celle-là, c'est-à-dire que on est à la fois le sommet et puis après il y a une rupture dont on ne se remettra pas, mais qui continuera en Andalousie avec des gens comme Averroès, avec des gens comme ça, c'est-à-dire que à l'intérieur de cette culture, il y a aussi de quoi te nourrir. Et quand je pars de là, c'est toujours... faut connaître les cultures de ton passé pour pouvoir exister aujourd'hui. Mais à la fois, je suis aussi sur Diderot ou sur les grands penseurs des Lumières. C'est-à-dire que je suis arrivé à intégrer que les Grecs, la pensée grecque a été perdue, mais reprise par les Arabes qui les ont redonnés aux Occidentaux. Et donc, moi, je suis... ces liens-là.
Troisième, ils l'ont économisée, mais elle se vida d'elle-même et ils abordaient le pays de nulle part, le pays des herbes sèches. Et quand ils eurent pénétré dans le pays des herbes sèches, le Seigneur ordonna que l'on plante les tentes ici. Les enfants sont venus le trouver dans le plus grand effroi. Seigneur, nous n'avons plus de nourriture, nous n'avons plus d'eau. De quoi allons-nous nous nourrir ? De quoi allons-nous nous nourrir ? Nous allons tuer une chamelle. Une chamelle ? Laquelle ? Je ne tuerai pas la mienne. C'est une méhara blanche des Melgadon, blanche comme le lait, rapide comme le vent. Je ne tuerai pas celle de mon fils, puisque je lui ai offerte la même. Il ne reste plus que la tienne. La mienne ? La mienne, Seigneur ? Tu ne peux pas tuer ma chamelle, c'est un cadeau de ma mère. Elle est peut-être grise, ce n'est qu'une pauvre chamelle d'Imral. Mais dis-toi bien, quand ces sabots heurtent la rocaille, ça fait des étincelles. Mon estomac ne se nourrit pas d'étincelles. Je n'en mangerai pas une miette, pas la moindre miette. L'enfant pénétra dans sa tente. Il entendit sa chamelle qui blatérait. Arigoulan a mis à rôtir la chamelle et quand elle fut rôtie, avec son fils, il s'en délecta. Et ce soir-là, il dormit dans le pays de nulle part. Arigoulan avait tout préparé. Juste avant de pénétrer dans la tente, il avait enduit la chamelle de sel. Il savait qu'à un moment ou à un autre, l'esclave aurait faim. Effectivement, au cœur de la nuit, l'enfant s'est levé. Il s'est approché de la chamelle qui continuait à rôtir, a sorti son petit couteau d'esclave et a taillé dans la chair. Mais à peine il mit la première bouchée, il sentit le goût du sel. Il recracha immédiatement. Le proverbe dit : le sel est le frère de la soif, qui elle-même est la sœur de la mort. Il est rentré dans sa tente, s'est enroulé autour de sa couverture de laine et a dormi. De la nuit, pendant qu'Adelazek dormait, Arigoulan a réveillé son fils. Il a dit : mon fils, tu vas marcher sur la trace de ton père. Tu vas boire pour une nuit et pour un jour. Et pourquoi mon esclave ne marche-t-il pas sur ma trace ? A dit son fils. Tu dois t'exécuter, tu n'as pas le droit de me poser de questions. Écoute, Seigneur, il est le fils du pauvre, je suis le fils du riche. Depuis qu'il est né, nous avons pratiquement tout partagé. Dès cet instant, tu vas te taire. Pourquoi je ferai un redzou ? Je te ramènerai deux autres esclaves s'il le faut. 1000 esclaves ne remplaceront jamais mon ami, mais je m'exécuterai mon père. Et durant cette nuit, le fils d'Arigoulan a marché sur les traces de son père. En ce lieu, le Seigneur était maître de l'eau. Il savait qu'assez loin de la tente poussait une fleur. Cette fleur magique, cette fleur de l'eau que l'on appelle euphorbe. Il a marché jusqu'à l'apercevoir, droit devant lui. Elle divisait le ciel en deux parties bien distinctes. Il s'est rapproché, a soulevé la dernière feuille pour gratter le sol. Mais il y avait déjà une petite mare où tout le ciel du désert se reflétait. Il n'était pas là pour faire de la poésie. Il a bu jusqu'à satiété. Il a demandé à son fils de faire pareil. Ensuite, ils se sont lavés et ils sont retournés dormir. Le lendemain, Adelazek s'est levé péniblement. Il a soulevé le vent de sa tente. Des petits points d'argent tournoyaient autour de sa tête. Les prémices de la soif. Il en a ri intérieurement. Il a regardé ce désert qui n'en finissait pas de ne pas en finir et il lui a parlé. Désert, tu m'as enfanté pour me reprendre si jeune. La mort me tient par le bout du doigt. Il s'est assis, calculant chaque geste, chaque respiration. Dans la matinée, il a entendu un tout petit bruit qui venait de la tente d'à côté. Entre mille, ce petit bruit l'a reconnu. Quelqu'un était en train de décorer sa selle avec un poinçon, artifice, quand on a pour breuvage que de la graisse de chamelle. Il y a du doute qui vous fait peur, il y a du doute qui vous donne du courage. La graine lui a donné le courage d'exister un peu plus fort. Mais pour exister plus longtemps, il devait se rendormir. Et il s'est rendormi. Quand le soleil fut en plein milieu du ciel, Arigulan a ordonné à son fils de le suivre pour aller boire. Et ils sont retournés à l'euphorbe boire. L'après-midi, ils ont fait la sieste. Adelazek, lui, s'est relevé. Pendant la plus grosse des chaleurs, il a soulevé le haut-vent de sa tente. Les petits points d'argent avaient disparu. Il laissait place à des arcs-en-ciel. La mort ne le tenait plus par le bout du doigt. Maintenant, il avait un pied dans l'au-delà. Il a eu le courage de marcher jusqu'à la chamelle qui rôtissait. Il a pris son petit couteau d'esclave. Il a récolté toute la graisse qu'il y avait sur cette chamelle rôtie. Il s'est approché de la tente du Seigneur, a subtilisé ses chaussures ainsi que celles de son fils et en a enduit le dessous des semelles. Ça lui avait coûté beaucoup, car une fois pénétré dans sa tente, ses genoux ont touché terre. Son visage s'est écrasé contre le sol. Il a supplié que ce ne soit pas le dernier sommeil. Au sortir de la chaleur de l'après-midi, le seigneur avait soif et un seigneur, ça ne sait pas attendre. Il a dit à son fils, tu vas venir encore avec moi, tu vas boire pour une nuit et pour une matinée. Le fils s'est exécuté, ils sont allés à l'euphorbe et ils ont bu pour une après-midi, pour une soirée, pour une nuit et pour une matinée. Et ils sont restés calmement dans la tente. Quand la nuit est tombée, il y a eu un petit vent qui s'est levé, un petit vent parmi les 33 vents, pas n'importe quel vent, celui qu'on appelle Tagout, celui qui est là, à ras du sol, qui ne déplace pas la moindre poussière. Mais quand il pénètre dans la tente, il vous enveloppe d'une telle fraîcheur qu'il serait capable de réveiller les morts. C'est ce que le proverbe dit. En tout cas, il a séché toute la sueur qu'il y avait sur Adelazeg. Celui-ci a ouvert les paupières. Et il s'est assis, il s'est même mis debout, il a soulevé le haut-vent de sa tente, il a vu que c'était la pleine lune, et par terre, il a cherché les traces, il n'y avait pas de traces de pas, il n'y avait que des petits scintillements, il a tout de suite su ce que c'était que ces petits scintillements. C'était la graisse qui était tombée, et à cette graisse était venue la vie, car dans le désert, il y a de la vie partout, la vie en ce lieu, c'était les fourmis. Les fourmis avaient la peau si noire qu'elle était comme le miroir. Il a suivi ses petits sentiments pendant un bon moment, jusqu'à apercevoir droit devant lui le forbe. Son pas s'est pressé sans qu'il n'en maîtrise la cadence. Le forbe, il y avait de l'eau, son pas s'est pressé. Et quand il est arrivé devant la fleur, il a soulevé la dernière feuille pour gratter la terre. Il y avait une petite mare où tout le ciel du désert s'y reflétait. Il n'était pas là pour faire de la poésie. Il a plongé le nez et la bouche. Il a bu, il a bu, il a bu, il a bu de l'eau et de la terre. Il a bu, il a bu, il a bu de l'eau et de la terre. Mais il vaut mieux boire de l'eau et de la terre dans ce sens que dans l'autre, vous ne trouvez pas? Il a bu jusqu'à satiété. Et quand il fut satisfait, il s'est relevé. Il a regardé en direction de la tente. Il a dit: Seigneur, je vais t'humilier. Tu as des devoirs envers un esclave. Tu m'as refusé l'eau. Eh bien, dis-toi bien que tu devras marcher sur les traces d'un esclave pour la posséder, cette eau. Il a déchiqueté la fleur et l'a éparpillée dans tous les sens. Pour ne pas perdre cette petite mare, il est allé chercher quelques brindilles. Au sommet de ces brindilles, il a mis un petit caillou blanc. Il a tournoyé pour se rendre ivre. Et quand son œil fut aguerri pour trouver ce petit caillou parmi ses herbes sèches, il est retourné dans la tente dormir d'un sommeil réparateur.
Il existe des conteurs généreux et Ahmed Bouzine en fait partie. Il nous parle maintenant de musique, de contes traditionnels et aussi de récits de vie.
Oui, oui. Raconter ton histoire et l'accepter pour savoir d'où tu viens, là qu'il n'y ait pas de brouillage dans ce présent, pour que tu puisses à la fois te projeter, si c'est possible, mais c'est toujours possible. Par exemple, je ne sais pas, je vais travailler avec des enfants des cités. J'ai commencé ça il y a très très longtemps, dans les années 80. On est très peu à faire ça quand même. Parce que pour aller voir des adolescents, d'abord, c'est un public difficile, comme on dit. Mais je connais, je maîtrise toutes les cultures. À cette époque-là, je connais très bien Tonton David, Adinuti. J'ai Don Dickshott qui a été un de mes élèves à partir de 80. Ali qui est avec moi dans ma compagnie. Lui aussi est issu du centre, du moins de Colombes, donc à travers les centres sociaux, à travers le terrain. On travaille sur leur propre culture. Par exemple, je vais faire un projet à Blois durant 3 mois qui va s'appeler de l'épopée au rap. C'est-à-dire qu'on va partir de leur propre culture et à travers l'art de la poétique, où là je vais leur faire connaître aussi bien François Villon qu'Arthur Rimbaud, que des poètes arabes, et qui vont finir par me dire: ouais, il est génial ton Borin là. Tu vois, c'était ou leur faire raconter un petit chaperon rouge des cités. Il était une fois dans la ville de Blois un petit chaperon qui n'était pas rouge, qui n'était pas bleu, il était couleur café, que j'aime ta couleur café. Tu vois, c'est-à-dire jouer avec toutes les cultures. Et puis ailleurs, par exemple à la Courneuve, avec le salon du livre de Montreuil, je vais faire un projet qui s'appelle Histoire de mémoire, où je vais demander à des mômes de CM2 de porter l'histoire de leur père et de leur mère, et puis à partir de là, d'aller les voir et de leur dire histoire de naissance, où est-ce que je suis né, comment j'ai grandi et pourquoi un jour je suis parti, et où est-ce que je suis parti, comment j'ai, histoire de voyage, comment je suis arrivé là à la Courneuve, à travers beaucoup de péripéties souvent. Après, histoire de travail, puisque je suis venu pour travailler, histoire d'amour, comment j'ai rencontré ma femme, histoire d'enfant, et donc on découvre qu'il y a des enfants qui sont morts, et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire que tu vas vraiment dans des choses que les parents cachent et que finalement ils finissent par dire.
C'est un travail de conteur, ça aussi.
C'est un travail de conteur parce que on va amener le récit, et ce sont des récits universels. Il faut toujours se dire que à chaque instant, qui que nous soyons, nous sommes toujours en permanence traversés par le mythe. En permanence, là, on est ensemble, on est dans une position mythique. Après, on en trouve le sens, tu vois. C'est le banquet de Platon. Oui. C'est l'idée de la quête, l'histoire de voyage, c'est l'idée de la quête, c'est l'idée d'un meilleur qui est ailleurs. Tu vois, mais en même temps, en étant porteur.
Si je comprends, dans ces histoires qui sont des histoires personnelles, les petites histoires, comme tu dis. L'artiste, là, il vient faire quoi? Il vient relier la personne avec quelque chose de plus grand, avec le mythe, avec quelque chose de plus universel?
Oui, parce que je demande à mon travail d'artiste, c'est ensemble, du moins je fais un travail d'écriture après, et je vais emmener ces enfants-là en scène. Et à l'époque, les projets duraient une année. Donc tu les emmènes à une forme de perfection et à porter cette parole-là. Hein, et donc... je me souviens de ces prestations-là où à la fois tu demandes aussi à ces enfants de cité d'être dans une forme d'excellence durant le temps d'une heure et quart, d'être, de porter ces récits avec toute la dimension, de les porter devant un public
avec une exigence
et de les porter, et tu emmènes ces enfants-là très loin et avec un courage certain. Au bout de ce récit-là, à la fois les parents pleurent de tout le travail que tu as fait, à la fois le public de la cité se pose des questions et est fier de ce qui s'est passé là, et à la fois tu as emmené les enfants devant un acte de courage, donc tout le possible sera devant eux. Après tu leur poses aussi la question à la fin, histoire de je serai. Est-ce que tu aurais le courage, toi, maintenant, en période de crise, même à l'époque, parce que le chômage dans les années 90, il était là, de faire comme ton père, de partir ailleurs? Et là, tu vois que tous les mômes te disent non. Et donc, mon père est courageux, ma mère est courageuse. Tu finis par renverser le sentiment de honte de ton père et de tout ce qu'il porte, quoi. Parce que c'est souvent un sentiment de honte au départ. Ça peut servir à ça aussi, quoi, tu vois.
Poignée de sable, nous ferons un commencement de jardin. Comme de tous nos rêves, nous avons fait notre ciel.
Altérité, voyage, imagination, arrachement, rêve, parole. Nous nous quittons, mais c'est pour mieux retrouver Ahmed Bouzine dans la prochaine émission. Merci à Anne Gaëlle Goduchaud pour cette interview et à la prochaine fois.
I have a dream.